14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
La famille Kirk était composée du père, Jean Kirk, de la mère, Hortense, et de leurs 6 enfants. Gustave, l'aîné, avait 17 ans. La dernière, Marie-Hortense, 2 ans. C'était une famille heureuse. Et aujourd'hui, elle est éteinte. Une main homicide l'a détruite, la main de l'accusé.
Bonjour, le français Jean-Baptiste Troppmann avait tout juste 20 ans quand il est devenu l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire. 8 personnes d'une même famille, le père, la mère, 6 enfants âgés de 2 à 16 ans, assassinés à Pantin, en banlieue parisienne et en Alsace. À l'ombre d'un château en ruine, pas du tout l'œuvre d'un dément, mais celle d'un jeune homme beau-parleur. Ambitieux, sans scrupules, au terme d'un plan des plus machiavéliques, il voulait s'emparer de la fortune de la famille, disparaître sans laisser la moindre trace, sans un drôle de concours de circonstances. Eh bien, il aurait pu sans doute signer le crime parfait. En cette année 1869, toute la France va se passionner pour cette affaire. Jamais les journaux ne se sont aussi bien vendus, mais qui est donc cet assassin qui affole l'opinion ? On ne parle que de lui, mais était-il vraiment seul pour commettre ces assassinats ? Et si l'enquête, menée volontairement tambour battant, avait pris une mauvaise direction, en négligeant d'autres pistes pour le moins troublantes ? Question posée aujourd'hui à notre invité.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur la spectaculaire affaire Jean-Baptiste Troppmann. À la fin de l'été 1869, ce jeune homme qui se lance dans les affaires va être présenté comme un terrifiant criminel, soupçonné d'avoir assassiné puis enterré toute une famille dans une banlieue du nord de Paris. Lundi 20 septembre 1869, aux alentours de 5h du matin, le cultivateur Jean-Louis-Auguste Langlois remonte à pied le sentier du Chemin Vert, non loin de la gare de Pantin. À l'époque, cette banlieue parisienne est couverte de champs et de terrains en friche. Langlois repère quelques traces de sang sur le sol, une traînée jusqu'à la prairie voisine où l'herbe a été couchée par une ou plusieurs personnes. Il s'avance et observe un discret monticule de terre fraîchement remué. Il gratte avec sa bêche qui accroche un morceau de tissu ensanglanté. Un mouchoir. Il continue. Du sol émerge cette fois un bras d'enfant à la peau blafarde. La police est alertée. Une dizaine d'agents, 2 inspecteurs de la sûreté parisienne sont sur place. La nouvelle se répand aussitôt. Des dizaines de curieux accourent jusqu'au champ. Des hommes équipés de pelles et de pioches mettent rapidement au jour une espèce de fosse commune. Dans la tranchée, les cadavres encore habillés et collés les uns aux autres, d'une femme, de 4 jeunes garçons et d'une toute petite fille. Les malheureux ont été étranglés, frappés à coups de couteau, parfois achevés à coups de pelle sur le crâne. Les visages sont mutilés. Le médecin légiste estime que certaines victimes étaient encore vivantes quand elles ont été ensevelies. La femme, qui était enceinte d'environ 6 mois, a été en partie éventrée, tout comme la petite fille qui a eu les intestins perforés. Le patron de la sûreté, Antoine Claude, patron de la sûreté à la préfecture de police, se charge en personne du dossier. Il craint qu'une bande d'assassins soit à l'œuvre dans la capitale pour s'attaquer à des familles bourgeoises. Les victimes portent effectivement toutes des vêtements de très bonne qualité. Les boutons des cols des garçons affichent la marque du tailleur Thomas à Roubaix. Un inspecteur file tout de suite dans le nord avec dans sa poche les photos des visages des cadavres. Le tailleur reconnaît immédiatement les membres d'une famille de clients qui habitent au numéro 22 de la rue de l'Alouette, les Quinck. Jean Quinck, d'origine alsacienne, 45 ans, est un notable local. Il possède un atelier florissant de mécanique et de fabrication de machines-outils. Il est propriétaire d'immeubles à Roubaix. Il veut implanter une usine en Alsace où il a acheté récemment une chute d'eau. Son épouse, Hortense, a 42 ans. Le couple a 5 garçons, Gustave, 16 ans, Émile, 13 ans, Henri, 10 ans, Achille, 8 ans, Alfred, 6 ans et une petite fille, Marie, 2 ans. 2 membres de la famille sont absents, le père et le fils aîné, tous 2 aussitôt soupçonnés d'avoir perpétré le massacre. La presse se déchaîne, le petit journal écrit qu'un père et son fils ont anéanti une famille, tous les 2 avec une cruauté indescriptible qui n'appartient pas à l'humanité. Mardi 21 septembre, un témoin, entendu par la police, un cocher, assure avoir chargé Hortense Quinck, ses 5 enfants, mais aussi un jeune homme, entre 20 et 25 ans, dans son fiacre. C'était dimanche soir, il était autour de 23h. Le cocher a conduit tout le monde à Pantin, non loin de l'endroit où ont été découverts les corps. Le jeune homme est descendu tout d'abord avec la femme et ses deux plus jeunes enfants. 20 minutes plus tard, il est venu chercher les trois derniers. Il a alors payé la course, puis a disparu dans la nuit. Les enquêteurs découvrent qu'Hortense Quinck venait d'arriver à Paris en train depuis Roubaix. Elle s'est rendue à l'hôtel du Chemin de Fer. Elle cherchait son mari, Jean Quinck. Le réceptionniste lui a répondu n'avoir aucun client à ce nom-là. Peu après, le fameux jeune homme est venu à la rencontre de l'épouse en lui disant qu'il allait la conduire jusqu'à son mari. Tout le monde est parti en fiacre. Un ami de la famille, le dénommé Tropman, a pris le large, mais pas pour longtemps. Il va être arrêté, par hasard. Jeudi 23 septembre 1869, à midi, trois jours après la découverte des six corps de la famille Quinck, le gendarme Ferrand fait sa ronde sur le port du Havre. Il contrôle les marins dans une auberge de la rue Royale. L'un d'eux paraît soucieux. Il dit s'appeler Vanderberg et venir de Roubaix. Le gendarme décide de l'emmener jusqu'à la caserne. Mais en route, l'individu lui échappe. Il court se jeter dans un bassin sans savoir nager. Un employé du port se jette à l'eau et le ramène à la surface, sauvé in extremis. En le déshabillant, on trouve sur lui de nombreux documents avec le nom de Jean Quinck, domicilié à Roubaix. Des actes de propriété, un portefeuille et deux montres. À son nom. On interroge aussitôt ce suspect. Il pourrait être lié à la tuerie de Pantin qui s'étale alors dans tous les journaux. Il déclare s'appeler Jean-Baptiste Tropman, 20 ans, né à Brunstatt dans le Haut-Rhin. Il connaît bien Jean Quinck, qui le désigne comme l'assassin de sa famille. Il aurait été aidé par son fils aîné Gustave. Le père, dit-il, a tué sa femme par jalousie. Tropman indique que Quinck l'a forcé à transporter les corps. Il n'est qu'un complice. Il est transféré à Paris. Dimanche 26 septembre, alors qu'une foule de curieux se presse depuis des jours à Pantin pour voir la fosse dans laquelle la famille a été ensevelie, un garçon boucher découvre un septième cadavre dans un champ de luzerne. Le corps d'un jeune homme, veste, pantalon, chaussée de bottines et chemise blanche ensanglantée, est exhumé. Il a été poignardé dans le dos et en plein cœur, un couteau de cuisine est resté fiché dans son cou. Il s'agit de Gustave Quinck, 16 ans, le fils aîné de la famille. Jean-Baptiste Tropman l'avait pourtant désigné comme l'un des assassins. Interrogé, il ne se démonte pas. « Je ne savais pas que lui aussi, il avait été assassiné », répond-il, sous-entendant que le père de famille est derrière ce meurtre. Vendredi 12 novembre, un peu plus de trois semaines après la découverte des premiers cadavres, Jean-Baptiste Tropman passe aux aveux. Oui, il a tué tout le monde, y compris le père de famille, Jean Quinck. Il indique que celui-ci repose au pied des ruines du château de la Ehrenflühe à Uffholtz, en Alsace. Il dit l'avoir empoisonné lors d'une promenade en versant dans son vin de l'acide prussique. Il a ensuite frappé et caché le cadavre sous une grosse pierre et des branchages. Le corps de Jean Quinck est effectivement retrouvé à cet endroit. Tropman raconte avoir connu Quinck à Roubaix. Le riche entrepreneur était toujours avide de bons placements, alors il lui a donné rendez-vous en Alsace pour une affaire en or. La vente d'un immense domaine dans la montagne d'Uffholtz. Le 24 août, les deux hommes se sont retrouvés à la gare de Bolwiller. Tropman pensait que Jean Quinck était venu avec beaucoup d'argent, mais il s'était méfié et s'était pointé avec les poches vides. Il n'a trouvé sur lui que 212 francs au lieu des 5500 espérés après le meurtre. Il a adressé une lettre à l'épouse en disant que son mari était blessé à une main et ne pouvait pas écrire lui-même. Mais il lui fallait de l'argent à Paris. Il a demandé que le fils aîné Gustave apporte dans la capitale une procuration pour effectuer un retrait. Le mari blessé ne pouvait rien signer. Le fils aîné est donc venu, mais la procuration a été refusée. Tropman l'a donc tué. Il a ensuite demandé à l'épouse de venir elle-même avec l'argent, ce qu'elle a fait, mais avec presque rien sur elle. Il a éliminé tout le monde pour éviter d'être dénoncé. Le suspect va revenir sur ses déclarations. Il va présenter une toute autre version des faits. 18 novembre 1869, Jean-Baptiste Tropman écrit un mot au directeur de la maison d'arrêt du boulevard Mazas à Paris. Il l'invite à venir le voir dans sa cellule. « J'ai de très importantes révélations à vous faire », assure celui qui est accusé d'avoir décimé la famille Quinck. Il explique alors qu'il n'était pas seul lors des assassinats. Au moins trois hommes, originaires de Mulhouse, mais dont il ignore les noms, l'ont accompagné. Troppmann laisse entendre que le mobile, l'argent, n'est pas le bon. Jean Quinck serait lié à un réseau de faux-monnayeurs. Et même à un réseau d'espionnage allemand. Il aurait dérobé des documents. Des hommes ont été mandatés pour l'éliminer. Toute la famille y est passée. Le patron de la sûreté écoute avec beaucoup d'attention les déclarations de Troppmann. Le commissaire Claude est d'accord avec le suspect sur au moins un point. Troppmann n'était pas seul. Le policier estime qu'au moins deux ou trois personnes ont participé au carnage. Le chef de la sûreté est bien seul à évoquer une bande de tueurs. Le juge constate que chaque fois que Troppmann a été vu par des témoins, il était seul. Seul pour acheter du matériel de jardin, une pelle et une pioche dans un magasin d'outillage la veille des crimes. Seul en compagnie de Jean Quinck dans une petite gare alsacienne où les deux hommes se sont retrouvés. Seul encore dans le fiacre qui a emmené Madame Quinck et ses enfants à Pantin où ils ont été exécutés. Seul, enfin, pour écrire des lettres qui demandaient à l'épouse d'envoyer de l'argent à Paris. Il n'y a qu'un seul et unique suspect, c'est lui, va dire un magistrat. Trois mois d'enquête et l'unique suspect va comparaître aux assises. Mardi 28 décembre 1869, Jean-Baptiste Troppmann, 20 ans, front dégarni, cheveux bruns, petite moustache et regard absent, apparaît dans la salle bondée de la cour d'assises de la Seine, à Paris. Les pièces à conviction sont étalées sur des tables, à savoir les vêtements tachés de sang et de terre des 8 victimes. La presse s'arrête sur la robe en soie de la mère de famille, Hortense Quinck, et surtout sur la tenue de la petite Marie, tuée à l'âge de 2 ans. Une robe à coton bleu parée de velours noir sur laquelle est resté accroché un brin de bruyère. Troppmann n'est pas un être humain. Il y a dans ce cerveau une perturbation que nul ne peut nier, écrit le journal Le Gaulois. L'accusé certifie qu'il n'était qu'un complice de cette tragédie. Les tueurs sont dans la nature, dit-il. Toutes les preuves, ajoute-t-il, sont dans un portefeuille que j'ai enterré en Alsace. Mais Troppmann refuse d'en dire davantage. L'avocat de Troppmann, maître Charles Lachaud, surnommé le roi des assises, assure qu'un homme seul n'a pas pu commettre ses crimes à la chaîne entre Pantin et un château alsacien. Il raconte l'enfance de son client et l'amour infini qu'il portait à sa mère. À ce moment-là, l'accusé se met à sangloter. « Vous voyez, messieurs les jurés, il pleure, c'est une créature de Dieu. Il y a encore dans son cœur un rayon de tendresse », s'exclame l'avocat. Mot qui ne porte pas, 30 décembre, après 40 minutes de délibéré, Jean-Baptiste Troppmann est condamné à la peine capitale. Maître Lachaud dépose un pourvoi en cassation, lequel sera rejeté dans les jours qui suivent. Le condamné va être rapidement exécuté. Mercredi 19 janvier 1870, des milliers de personnes se bousculent dès le matin, place de la Roquette à Paris, autour de la guillotine, pour assister à l'exécution de Jean-Baptiste Troppmann. La légende raconte qu'au dernier moment, le condamné aurait mordu la main gauche de son bourreau, lui sectionnant presque l'index. Le soir même, le patron du petit journal, Moïse Millau, célébrait l'exécution et les records de vente grâce à l'affaire de Pantin avec ces mots « Je lève mon verre à la mémoire de l'assassin bienfaiteur de notre journal. »
Troppmann, que voulait-il? Quel secret gardait-il dans sa tête? Qui étaient ses complices qui sont morts peut-être dans leur lit, si tant est qu'il ait eu des complices? Était-il leur maître ou leur esclave?
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.